Papa-Pienne, Papa-Pienne et tous les autres aussi, bonjour. Amateurs de musique baroque, de délicates sonates pour piano ou de musique planante pour centre de bien-être, passez votre chemin. Notre invité d'aujourd'hui est un homme bruyant qui joue du rock fort, oui très fort, avec un appétit certain pour la destruction. Il a été à la tête d'un groupe barbare qui, il y a 30 ans, a fait bondir la consommation d'électricité sur la planète rock, avec son petit camarade Axl Rose, un des plus grands hurleurs de la même planète. Celui qui déclarait « Je ne suis pas Dieu, mais si je l'étais, les trois quarts d'entre vous seraient des filles et le reste serait de la pizza et de la bière !» Vous l'avez compris, on parle ici de Guns N' Roses. Axl était la rose, une rose pleine d'épines, hein, les groupies s'en souviennent encore. Et Slash, oui, puisque c'est lui notre invité d'aujourd'hui, les Guns, l'arme lourde, celle de destruction massive de tympans fragiles. Par ailleurs, guitariste prodige, virtuose, maître du riff, vous savez ce motif musical lancinant du type qui vous trotte dans la tête et que vous vous évertuez maladroitement à essayer de reproduire sans jamais y parvenir tout à fait. Ça, bien sûr, c'était avant l'invention des machines magiques qui le font à votre place et qui vous dispensent même d'avoir recours à des musiciens en chair et en os. Bref, c'est un dinosaure que nous recevons, une légende, un maître du genre. Il était de passage à Paris pour un concert avec Miles Kennedy et les Conspirators. Slash se lâche dans Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, celle qui headbang en ce moment alors qu'il n'y a pas de musique dans le studio, Charline Roux.
Ouais, bonjour, ouais.
Calmez-vous, Charline. Allez-y. Alors, là, vous pouvez, tenez. Voilà, c'est quand même mieux avec du son, non?
Oui.
Au menu également de Pop Pop Pop, Simon et Capucine Johannin, les auteurs du livre Nino dans la nuit. Ah, mais avant ça, quand on a slash au micro de Pop Pop Pop, ben on lui pose une question encore plus hard qu'un chat qui fait de l'autotune. Et cette question, c'est... Slash, pour vous, c'est quoi la pop culture? What is pop culture for you?
Oh, pop culture is pretty self-explanatory. I mean,
je crois que ça s'exprime, ça se dit, même c'est la pop culture, c'est tout ce que le grand public achète, quel que soit le goût de l'époque. C'est ça la culture de tout le monde, d'être consommateur. La pop culture, musique, art, littérature, mode, tout ça rentre dans la pop culture à chaque moment de l'histoire.
Slash est dans Pop 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 et c'est un événement pop, mais avant d'écouter des morceaux de Slash et avant de continuer de parler avec lui, écoutons Anna Calvi, As a Man, comme un homme.
Thank you.
When you're not walking and talking as a man. As a man, when you're not walking and talking as a man.
As a Man, c'est un morceau de la chanteuse anglaise Anna Calvi que l'on aime beaucoup. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un guitare héros. Oui, mais encore, donnez-moi plus d'infos, Charline, avec votre pop portrait. Ah bah oui, bah alors un pop portrait, c'est un portrait, bien sûr, mais...
À base de pop.
Et il est signé donc, Charline...
Plutôt qu'un portrait, une démonstration à la hauteur du talent de l'homme bouclé, tatoué et chapeauté que nous recevons. Slash, c'est l'homme capable de jouer de la guitare dans le désert et même pas branché. Le solo de November Rain avec les Guns N' Roses, il sait aussi produire des petits riffs bien efficaces comme celui-là. Bon, le cri n'est pas de lui, hein. C'était donc sur Black or White de Michael Jackson pour qui il a aussi fait ça. Ça, c'était sur Giving to Me, et parce qu'il est comme ça, Slash, il donne, et même que quand on l'appelle, il surgit. C'était pour Lenny Kravitz, et pour terminer, Slash, c'est lui. Et Slash vient nous parler aujourd'hui de son troisième album, cette fois avec Miles Kennedy.
Merci Charline. Quand on a une icône pop, une icône...
Parce qu'une icône, c'est autre chose. C'est soit un appareil photo, soit une dame qui est pas maligne. Donc
quand on a une icône pop dans Pop, on lui demande évidemment de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. C'est donc l'heure de la pop-liste de Slash. Quel est votre film de référence? Vous savez, je suis surtout un grand fan de films d'horreur.
Any kind of intrigue or
tout
something
ce qui, est,
scary
or, qui fait peur, tout ce qui est un peu suspense, intriguant, tout ce qui a du suspense, ça c'est ça qui me branche.
Il y en a un en particulier.
I'm a confirmed Jaws addict.
Vraiment les dents de la mer. Je suis un fan complètement accro aux dents de la mer. Je suis un groupie de les dents de la mer.
Il existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé. En dehors de toute passion, de toute logique. Elle vit pour tuer. C'est une machine à dévorer. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Voici les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner.
Ça vous fait toujours peur quand vous le revoyez?
Non,
peut-être pas peur. Mais je connais tellement ce film, j'ai tellement vu deux fois.
It still fascinates me.
Mais ça me fascine. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui figure sur votre table de chevet, le livre que vous préférez?
Yeah.
Je viens de terminer un film qui s'appelle Sapiens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler sur l'origine de l'humanité et le développement de l'humanité aujourd'hui, Sapiens.
Ok, donc un essai plutôt qu'un roman.
Oui, tout à fait, plus ou moins, ouais.
Ok, une série télé.
Oh shit.
Ah merde. Il y en a tellement maintenant. Et je regarde ça tout le temps.
I'm watching this one called The Break right now, which
The
is
Break,
a Belgian
qui est une série belge.
I mean, it's really good.
Elle est vachement bien. Je peux pas dire que c'est la meilleure du monde, mais c'est celle que je regarde en ce moment.
Redécris-moi ce que tu entends exactement.
Généralement, ça commence comme un son aigu, comme un acouphène. C'est très léger, Et puis ça devient plus lourd. Comme un grondement sourd. La dernière fois, c'est comme si un troupeau de buffles avait traversé ma cuisine. Comme si la terre tremblait sous la surface. Je vois des choses qui n'existent pas.
Ok, et pour finir, une chanson.
Fuck.
Merde.
Well, okay, all right.
Bon, d'accord. Je sais.
There's a new Alice in Chains record.
Alice in Chains, son nouveau disque.
And Rainier. Fuck, I forgot. Rainier.
Je sais plus le titre. Rainier quelque chose.
What, the name of the album and
le nom de l'album et c'est le nom aussi de la chanson et elle est super cette chanson.
Rainier something. It's the name of the mountain in Seattle.
C'est le nom de des montagnes à Seattle. Voyez à Washington. Voyez dans l'État de Washington. Voyez.
Donc quand je vous dis une chanson, c'est Alice in Chains qui arrive immédiatement.
Ah oui, tout à fait. Alice in Chains, ça a toujours été vraiment mon groupe préféré depuis qu'ils ont commencé. C'est mon groupe préféré des années 90.
Rainier Fogg, donc Alice in Chains, pour la pop prescription de Slash. Avant de parler de Living the Dream, le nouvel album de Slash, écoutons un extrait. My Antidote, par exemple, ça veut dire mon antidote.
My Antidote, mon antidote, c'est un morceau de Slash, enfin la barre de travers quoi, notre invité d'aujourd'hui dans Pop 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 sur France Inter. Un morceau signé Slash avec Miles Kennedy and the Conspirators et Slash que nous sommes allés rencontrer avec Charline.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
La légende veut que vous ayez été conçu en France. Est-ce que ça vous fait tout drôle de revenir à la maison?
Right. The legend says.
La légende.
Yeah. My dad was telling me.
Effectivement, mon père m'a raconté ça. Je ne savais pas, hein, j'étais pas au courant. C'est il y a quelques années qu'il m'a dit ça. Et donc oui, ça fait du plaisir d'être de retour à la maison.
Conçu en France, mais vous êtes né en Angleterre, vous y avez un peu vécu. Reste-t-il quelque chose de britannique en vous?
La moitié de ma famille est britannique et puis j'y retourne souvent. Et j'ai toujours gardé contact avec mes racines. Et je me sens vraiment à l'aise quand je suis là. Ça me manque, la Grande-Bretagne. Mais je n'ai jamais décidé d'y retourner pour y habiter.
Living the Dream, c'est votre troisième album avec Miles Kennedy and the Conspirators. Le précédent date d'il y a 4 ans. Entre-temps, vous avez passé beaucoup de temps sur les routes avec le groupe, puis avec Guns N' Roses. Quand et comment Living the Dream a-t-il été conçu?
Living the Dream, some of the material,
une partie des chansons a été écrite pendant la tournée World on Fire, pendant qu'on était en tournée. Et puis on a eu une pause avec les Guns N' Roses de décembre à... mars, je crois. Et là, quand je suis rentré à la maison avant Noël, j'ai écrit certains morceaux avec les Conspirators, je pensais à eux. Et en janvier, on est allé en studio, on a travaillé les chansons et on a fini le disque. Je me rappelle d'écouter le dernier master pour approuver le dernier master. Et là, j'étais en tournée dans ma voiture et je rejoignais les Guns N' Roses. Et donc tout s'est passé très vite.
Living the Dream, c'est le nom de l'album. Est-ce que c'est aussi votre situation aujourd'hui?
Tout le monde me pose cette question. Living the Dream, le titre, est une sorte de sarcasme, c'est quand même une blague. On dit ça tout le temps, quand tout ne va pas si bien que ça. Mais puisque moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime, et donc on peut dire ça, on va dire.
Et alors, est-ce que c'est une bonne période pour avoir un groupe nommé les Conspirateurs?
Pourquoi? Parce que.
You know.
I have a sense of humor.
Vous savez, j'ai un peu d'humour, quand même, donc ouais.
Vous composez toujours sur la route, dans les hôtels, dans les tourbus. Et si oui, est-ce que la qualité de l'hôtel où vous vous trouvez a une incidence sur la qualité de la chanson que vous composez?
That's a good question.
Ça, c'est une bonne question. Celle-là, on ne l'a pas posée. J'ai pas l'impression. Peut-être inconsciemment, peut-être que ce qui vous entoure, peut-être a une influence. En tant que musicien, en tant que guitariste, je parle souvent de tas de choses intimes, je prends des notes. Et donc effectivement, l'environnement, ce qu'il y a autour de moi, a une influence sur ce que j'écris. Donc peut-être.
Slash, peu de guitaristes peuvent se vanter d'avoir leur nom sur l'album avant celui des autres. Vous êtes l'instigateur et la star du projet. Comment est-ce que vous le vivez?
J'y pense pas vraiment, hein, comme ça. Les Conspirators, ça a commencé comme un projet solo. Et quand j'ai rejoint Miles pour faire la tournée pour le premier disque solo que j'avais fait, là, on a fait juste une double affiche. Et là, du coup, on s'est posé la question du crédit, de ce qu'on allait mettre sur l'affiche. En faisant cette première tournée, je me suis rendu compte que c'était vraiment une chose très importante de ce que l'on faisait ensemble et qu'on avait le temps et qu'un jour, on ferait un disque. Et donc, avec les Conspirators, on a gardé le nom de Miles et voilà comment ça s'est mis. Donc, c'est un groupe. Mais effectivement, je guide les choses. C'est moi qui, effectivement, organise un peu. Mais c'est quand même un groupe.
La guitare a été une révélation pour vous alors que votre rêve était de devenir champion de BMX. Aujourd'hui que vous êtes devenu un des guitaristes les plus virtuoses qui soit, qu'est-ce que la guitare a encore à vous apprendre?
Oh, the guitar is a never-ending project.
Ça n'arrête pas. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Chaque soir, quand je commence à jouer, j'essaie de voir jusqu'où je peux aller avec. Et il y a toujours quelque chose que je tente et que je n'arriverai peut-être pas à faire. La guitare, ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez. C'est quelque chose que vous continuez à essayer d'être à sa hauteur. Et donc, il ne s'agit pas de toucher une sorte de pinacle des virtuoses. Non, ça, ce n'est pas possible.
Mais justement, vous êtes un workaholic autoproclamé, vous êtes un virtuose, comme le disait Antoine. Ça veut dire combien d'heures de pratique par jour? Et est-ce que c'est toujours par plaisir ou aussi par nécessité?
C'est un peu les deux. J'aime bien jouer, c'est mon plaisir. Répéter, j'appelle ça pas vraiment répéter. Je joue, je prends ma guitare et je joue pendant des heures. En même temps, c'est une discipline quand même à tenir. Si jamais vous n'avez pas d'idée de ce que vous allez faire, vous prenez la guitare. Vous prenez la guitare et puis voilà, vous suivez votre inspiration. Et c'est positif de faire ça. Des idées peuvent arriver du coup. Jouer chaque jour, c'est un plaisir et en même temps, c'est quelque chose effectivement que j'aime travailler.
Vous êtes devenu un guitare héros pour beaucoup de guitaristes. Qui est votre guitare héros à vous? Je vois qu'aujourd'hui vous portez un t-shirt Led Bloody Zeppelin.
Quand j'ai commencé à jouer la guitare, j'avais 14-15 ans. Et là, clairement, c'était les groupes de l'époque qui m'influençaient. Les grandes inspirations à l'époque, c'était Aerosmith. J'adorais. Vraiment, les disques rock de Aerosmith, j'adorais ça. C'est ça qui m'a lancé dans une direction précise. À cette époque, il y avait Cheap Trick, Ricky Nelson. Et même le premier disque des Cars, je les adore d'ailleurs toujours. J'ai toujours trouvé que... Je me rappelle... Elle est Easton, c'est ça son nom, le guitariste des Cars. Il y avait AC/DC. Et j'ai grandi avec Led Zeppelin et les Stones. Les Stones. Clapton. Bien sûr, Jimi Hendrix. Il y avait des tonnes de guitaristes, en fait, qui étaient des inspirations pour moi. Mais voilà les premiers que je peux... Mike Bloomfield aussi. Et B.B. King, ensuite, est devenu quelqu'un de très important. Albert King aussi. Et Freddie King, les trois Kings, en fait. Et la liste, elle peut continuer. Billy Gibbons, une grande influence. Quand j'ai commencé à jouer, ouais, etc.
Après toutes ces années de tournée, de scène, vous êtes toujours aussi timide et réservé. Vous ne pouvez toujours pas envisager d'être frontman. Et quelles sont les qualités indispensables à vos yeux pour le chanteur idéal, pour vous accompagner?
With singers,
pour les chanteurs,
the thing about singers is
ce qu'il y a pour les chanteurs,
that's a good question.
C'est une bonne question.
It's really, for me, a singer's effective if really
pour moi,
emotes from the heart.
Un bon chanteur, il chante avec le cœur. C'est quelqu'un qui sait communiquer vocalement avec sincérité, avec un sens de la justesse, pour que l'émotion passe. Les chanteurs rock, pour eux, n'arrivent pas tellement à faire ça, parce que certains aiment plutôt avoir une attitude et avoir un certain esprit sur scène. Et ça s'exprime par la voix. Mais il y a beaucoup de gens qui font semblant, qui essaient de le faire, qui essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et donc je cherche quelqu'un... Enfin, moi j'ai chanté avec des chanteurs, à chaque fois, disons, des chanteurs qui étaient sincères et qui vraiment étaient qui avaient cette sincérité. C'est ça qui me plaît.
Michael Jackson, Lenny Kravitz, Bob Dylan, Rihanna, voici une petite partie des gens avec qui vous avez collaboré, des artistes de styles très différents. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? En tout cas, qu'est-ce qu'ils vous disent?
J'ai l'impression que, d'habitude, ce que j'ai surtout entendu, la raison pour laquelle on m'appelle, c'était parce qu'il y avait un élément rock. Ce qui est flatteur, parce que ça veut dire que pour eux, je représente quelque chose de sincère, quelque chose qui soit vraiment rock, que j'ai un son qui transmette ça. Et c'est souvent plutôt ça que l'on dit, c'est la raison d'habitude, oui.
Sur votre premier album solo ou presque, Slash, vous aviez invité des gens que vous aimiez, tels que Iggy Pop, Dave Grohl, Fergie, Nicole Scherzinger, Chris Cornell, Adam Levine, Lemmy de Motorhead, Flea, Kid Rock, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, ce qui témoigne d'un très très grand éclectisme. Si vous deviez renouveler l'expérience aujourd'hui, qui ajouteriez-vous ?
C'est difficile à dire. Sur le moment, quand j'ai fait ce disque, j'avais toutes ces chansons, tous ces morceaux, et donc je me disais quel est le chanteur que j'aime bien et qui serait un bon interprète. Et c'est comme ça que la liste s'est constituée. S'il fallait que je trouve d'autres gens avec le travail, c'est difficile comme ça de dire les noms comme ça du but en blanc. Il faudrait que j'y aie réfléchi. Et d'avoir surtout une musique qui corresponde à ça, pour les engager. Mais il y a beaucoup d'artistes avec lesquels je n'ai jamais travaillé, de grands artistes. Mais je ne vais pas essayer de vous trouver des noms, parce que...
Plus de 30 ans se sont écoulés depuis la sortie de Appetite for Destruction. Quel est le secret de cette longévité qui n'est pas si courante dans le monde du rock ? Et quels souvenirs gardez-vous de cette période des débuts ?
The longevity for that record?
La longévité du disque? Ou ma longévité à moi, vous voulez dire, la mienne?
I love what it is that I do.
Mais vous savez, ce qui explique peut-être ça, c'est que j'aime ce que je fais. Et plus je le fais, plus je l'aime. C'est ça qui me maintient comme ça. Et avant le concert d'hier soir, je me suis dit que jamais j'imagine m'arrêter. Ça me semble pas possible d'arrêter un jour. C'est ça qui finalement m'entraîne. Et c'était quoi l'autre partie de la question ?
Quel souvenir gardez-vous de cette période-là ? Si vous gardez un souvenir, bien sûr.
Je sais pas. J'y pense pas vraiment tellement au passé. J'ai bien sûr des super souvenirs de tout ça. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup de choses. Et ça fait 30 ans maintenant, donc ça fait un moment que je suis dans le rock. Donc oui, il y a beaucoup de souvenirs. Mais j'y pense pas tellement souvent.
Est-il vrai que vous avez un jour reçu un conseil de David Bowie ? Et est-ce que vous l'avez appliqué ?
Well, I was having a bit of a I was going through a sort of a drug
C'était une
haze at one
phase
moment.
De drogue un peu extrême à ce moment-là, et c'est devenu assez grave en fait pour moi. Et je parlais avec David, il m'a donné des conseils, qui étaient des conseils de prudence, mais je ne l'ai malheureusement pas toujours écouté. Mais je ne les ai pas oubliés, et quelque part, ça m'a aidé plus tard. Mais sur le moment, je n'ai pas écouté, non, ce qu'il m'a dit.
Et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui au Slash de Appetite for Destruction ?
Je donnerais pas de conseils. Il faut bien que les choses suivent leur cours.
Alors si je ne vous pose pas la question, nous risquons de gros problèmes avec le public qui nous écoute. Ce nouvel album des Guns, légende ou réalité ?
Tout le monde me pose la question, mais il n'y a rien que je puisse dire, rien à en dire. Quand j'aurai fini ce que je fais là, quand je rentrerai chez moi, et je vais rappeler Axel, et on fera ce qu'on a besoin de faire pour voir comment ça peut avancer. Mais pour l'instant, il n'y a rien, aucune information que je puisse donner.
Dernière chose, Slash, vous avez toujours ces légendaires lunettes à miroir, hein, les Ray-Ban aviateurs, ce qui fait que je ne vois pas votre regard, mais en revanche, je me vois dans vos lunettes. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit depuis le début de l'interview que j'avais un bout de salade entre les dents ?
Mais je n'ai pas remarqué.
Oui, mais je le vois, moi.
Non, mais je n'avais pas vu. Mais c'est vrai ?
Et puisqu'on en est aux accessoires, le chapeau, c'est devenu un peu votre marque de fabrique. Est-ce que c'est purement un accessoire de mode ou est-ce que c'est aussi un peu une cachette ?
Vraiment, au début, à l'époque, c'était quelque chose qui avait l'air cool et qui était bien à l'époque. Et aussi, c'est effectivement, ça m'apportait une sorte de sécurité, ça me rassurait. C'était une bonne chose pour se cacher, oui. Et ça l'est toujours, hein, même aujourd'hui.
Merci / Living the Dream, vivant le rêve quoi. C'est votre nouvel album et c'est évidemment toujours disponible. Et j'en profite pour annoncer que vous serez au Hellfest. Mais c'est déjà complet.
Au Festival de l'Enfer, non?
Exactement. Peut-être, oui. Alors session de rattrapage le 10 mars au Zénith de Toulouse.
Pour perdre, oui.
Et le 3 juillet au Festival de Nîmes. Break dans ce pop pour lancer les pop news et ce sont des rock news jingle.
Their music made them famous, their lives made them infamous. Leur musique les a rendus célèbres, leur vie les a rendus infâmes. De qui est-il question dans cette tagline? Eh ben d'eux. Les infâmes Motley Crue, parmi lesquels Vince Neil, Nicky Six et Tommy Lee, ex-Monsieur Anderson, auront les honneurs d'un biopic intitulé The Dirt, d'après le livre The Dirt, Confessions of the World's Most Notorious Rock Band. Bonne annonce!
I had managed the Scorpions, Bon Jovi, Skid Row, Kiss, but I have never been through what Motley Crue put me through.
Vince Neil charged with vehicular manslaughter.
Tommy Lee and Heather Locklear have separated.
Nicky Six has overdosed.
Win it all or lose it all. We are Motley Crue.
Des accidents, des divorces, des OD, The Dirt, ça déboule le 29 mars sur Netflix.
Ça promet. Guitar Hero toujours, mais cette fois parlons de Kirk Hammett et de James Hetfield de Metallica. Que se passerait-il si leur guitare était remplacée, disons au hasard, par des flûtes? Sad But True de Metallica a aussi été chitifluté.
Et enfin, un Guitar Hero, un vrai, même que Cocorico. Il est français, Wax, producteur, musicien émérite, reconnu pour sa virtuosité et ses vidéos, notamment avec le comité des reprises, vient de dévoiler le single précédent son tout premier album. Ce single, c'est Night and Day, et l'album de Wax arrivera le 12 avril.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
James Hetfield.
Bien, ouais. Merci Charline.
Je savais.
Avant d'accueillir les jeunes auteurs du roman Nino dans la nuit, Simon et Capucine Johannin, écoutons un petit Hendrix Purple Haze.
Purple Haze, 1967, un bon cru Jimi Hendrix. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ah, il était pas mal celui-là.
Il était très sonore, j'ai perdu quelques...
Et viennent de nous rejoindre Capucine et Simon Johannin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour tous les deux. Question préliminaire, vous partagez ce Pop 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 avec Slash, guitare héros s'il en est, et je voudrais savoir si ça vous fait quelque chose, ou si ça vous en touche une sans faire remuer l'autre. Quelle impression?
Franchement, que Slash c'est Guns N' Roses, c'est
ouais,
ça
ouais.
Ouais, bah justement, ouais. Je connais pas ça. C'est un des rares groupes, je saurais pas.
Moi, ça me fait un petit quelque chose parce que ça faisait partie de la bande originale de Tony Hawk Pro Skater 2,
ouais.
Sur lequel j'ai beaucoup joué. Donc
ça
voilà, ça
aux
fait
jeux
partie.
Vidéo, genre Guitar Heroes, tout ça. Mais
bon, très bien. Bah oui, c'est exactement ça, la pop culture. Vous êtes les auteurs du roman Nino dans la nuit, édité chez Alia, et vous partagez aussi bien la vraie vie que la vie littéraire. Alors moi, je voudrais savoir comment s'organise le travail et le partage des tâches. Qui fait quoi? Comment ça marche? Racontez-moi.
Là, pour Nino, en fait, c'est moi qui m'occupe de la construction de l'histoire. Mmh. Et j'écris pas du tout.
Ouais.
Et c'est Simon qui écrit.
Ouais.
Et après, c'est beaucoup de discussions pour savoir de quoi on a envie de parler, quel thème on veut aborder. Et moi, je vais faire vraiment un travail qui est plus technique, où je fais des bibles de personnages, comme on dit dans le cinéma. Mmh. Voilà. Et Simon, ouais, c'est plus un artiste dans ce travail-là que moi, où je suis plutôt technicienne.
Je vais amener le style d'écriture, du coup, et tout ça, ça va être mis en forme par les idées de Capucine et au service des idées de Capucine, en fait, ce qui va changer du premier roman sur lequel elle travaillait déjà avec moi, L'été des charognes, mais voilà, qui était vraiment sans histoire à côté de Nino, où vraiment on essaie de développer une narration avec des personnages qui s'entrecroisent et de faire des vrais beaux personnages, quoi.
Ça ressemble à un scénario de cinéma d'une certaine manière.
Oui, c'est un peu l'idée. On est plus connecté au cinéma qu'à la littérature d'une manière générale, d'ailleurs.
Vous êtes tous les deux encore très jeunes, mais vous travaillez étroitement ensemble et réfléchissez communément depuis la fin de l'adolescence. En quoi est-ce que cette période, qui est charnière pour tout le monde, a influé ou déterminé sur la suite de votre travail?
On n'a pas vécu grand-chose d'autre pour l'instant.
Mais c'est ça qui est étonnant. C'est pas,
ça viendra, vous inquiétez pas.
Fin de l'adolescence, c'est toujours un moment très particulier.
Ouais.
Est-ce que du coup, ça impacte ce que vous faites aujourd'hui?
Bien sûr, mais je pense que de toute façon, là, nous, on a respectivement 26 et 27 ans, et nos personnages ont entre 19 et 22, 23 ans. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu tiré les conclusions de ces époques-là. Et pour nous, c'était important d'à la fois de faire le point et en même temps de donner un peu des infos, faire passer un petit peu la vision du monde d'une jeunesse qui est en train de naître et d'éclore. Et, qu'est-ce qu'il y a qui change dans le regard par rapport à avant? Qu'est-ce qui a changé dans le contexte? Et qu'est-ce qui va pas de plus en plus? Et comment on peut rigoler de ça aussi, quoi.
Mmh. Nino dans la nuit, c'est un livre écrit donc à quatre mains. Et vous, Capucine, vous avez apporté quelques grammes de finesse dans ce monde de brut, en rendant par exemple plus doux le personnage de Nino, qui était, je crois, à la base, et je vous cite, carrément casse-couille dans la version écrite par Simon. Parce que c'est drôle, j'ai l'impression que vous parlez de ma vie de couple.
C'est vrai, c'est étonnant.
Oui, un petit peu. Donc, c'est ça, vous apportez, en fait, vous féminisez
je dirais pas que je féminise du tout.
Parce que les filles, on peut aussi être casse-couilles.
Non. Au contraire, je pense qu'il y a un humour noir et quelque chose de beaucoup de vulgaire et parfois violent que moi j'apporte vraiment. Mm-hmm. Par contre, c'est vrai que je trouvais que c'était très important pour une histoire comme celle-là qu'on s'attache au personnage et que toute l'histoire, on la découvre à travers le regard de Nino. Et si dans les premières versions, il était très antipathique, très donneur de leçons. Et comme c'est vrai que c'est des jeunes qui ont une vie, la société, elle a tendance à les considérer comme des ratés. Mmh. Et on voulait faire comprendre que les choses sont pas si simples que ça, et en même temps faire comprendre tout ça en ayant ce personnage qui a l'air de donner des leçons à tout le monde, alors qu'on peut dire aussi qu'il vit d'une certaine façon au crochet de la société grâce à des aides sociales, à des trucs. Donc on pouvait pas faire un personnage qui était aussi antipathique et aussi agressif, et en même temps parce que le but c'était que le lecteur s'attache à lui, comprenne pourquoi c'est compliqué et soit amené aussi à se révolter contre ces situations qui sont injustes.
Et détail qui a son importance, votre héros s'appelle Nino Paradis. Comment est-ce que vous avez construit ce nom et qu'est-ce que vous y projetez?
C'était juste pour faire la vanne avec putain c'est qui ta mère Amélie Poulain du
cause de Nino qu'un poids. Voilà. Mais Paradis, non, c'est non, intéressant Paradis. Aussi en même
ouais,
temps.
Ouais ouais ouais. Non en fait ça vient le prénom. Alors les noms sont un peu venus comme ça de manière automatique et en fait ça lui donnait au début c'était voilà quand on a discuté du personnage avec Capucine qu'elle est elle est revenue sur mes premières versions. Elle m'a dit écoute ça serait bien qu'à chaque fois il fait la gueule tu lui fasses faire une blague ça passera mieux et puis en même temps lui donner une autre candeur quelque chose un peu de l'ordre d'une naïveté. Nino comparé aux autres personnages il est un petit peu il a des grosses galères, mais il flotte un petit peu dessus. Il vit ça un petit peu comme une aventure, tandis que autour de lui, les gens le prennent un peu plus dans leur corps et dans leur cœur. Et voilà, Nino Paradis, c'est un peu Nino la tête dans les étoiles. Et puis c'est aussi toute une réflexion sur qui est un peu en filigrane dans le livre. Qu'est-ce que c'est le paradis? Qu'est-ce que c'est les récompenses divines? Où ça se situe? Où est-ce qu'on est sur Terre là-dedans? Est-ce qu'on est en enfer? Est-ce qu'on est déjà au paradis? Enfin, est-ce que ça se construit là ou est-ce qu'on mène notre vie pour attendre quelque chose plus tard? Et voilà, et tout ça pour arriver à la conclusion du livre qu'on ne dévoilera pas, mais eux vont faire leurs réflexions et demander avoir leurs propres réponses à ces questions, quoi.
Mais justement, Nino dans la nuit est un roman qui s'ouvre par le mot paradis, qui s'achève par le mot enfer entre les deux, 278 pages, qui n'est donc pas abusif de qualifier de purgatoire.
Il y a de ça, effectivement. Ouais. Mais ouais, après c'est un drôle d'itinéraire de commencer au paradis et de finir en enfer en passant par le purgatoire.
Oui. Mais ça en même temps, une descente.
Ça arrive à plein de gens, bien dans leur tête, c'est un cheminement logique, quoi.
En réalité, entre les deux, il y a l'histoire, dans ces 278 pages, il y a l'histoire d'une bande en marge d'un système au bord de l'implosion. En suivant Nino, Lal, Malik ou Charlie, on suit le quotidien d'une jeunesse qui n'a accès à rien, qui passe à côté de tout, qui enchaîne les jobs précaires mal payés et qui se réfugie dans l'alcool, l'herbe et la kétamine. Bande annonce, car oui, pour des livres aussi, il y a des bandes annonces.
Je me prends en pleine tête 180 tartes par minute. Et je tends les dojos parce que j'adore ça. La langue dehors, je hurle en remontant la foule. Je vois rien d'autre que l'intérieur de mes paupières où je laisse exploser les ombres. Et je souris comme un abruti, si content d'être vraiment défoncé. À partir de maintenant, ça compte pas. Il n'y a plus de temps. Plus rien. Il y a du monde. Des copains tous partisans de la fête. Juste des gens qui volent quelques heures sous des lumières moins blanches que celles que nous sert le jour. On s'en fout un peu tant qu'il y a à boire, que la musique est bonne et que le soleil reste caché. Une fois fini dans le noir, j'ai pour moi tes cheveux défaits dans le silence des poissons. Je me demande pourquoi moi si con choisi par toi si pur. Mystère de l'amour.
Bande-annonce de Nino dans la nuit, le roman de Simon et Capucine Johannin, édité chez Alias. Une bande-annonce à voir sur la page de Pop 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 sur franceinter.fr qui rappelle un peu l'univers de Gaspard Noé, dont vous êtes fan, je crois, non?
Ouais, c'est en fait c'est une référence qu'on partage avec Contrefaçon, qui est le collectif groupe de musique et de vidéo qui a réalisé le clip. Et c'est vrai que ça fait partie des gens, en tout cas du cinéma, qui nous ont mis des bonnes torgnoles à 16-17 ans. Et voilà, avec lesquels on s'est constitué.
Un film en particulier
quoi. Moi, c'est Seul contre tous. Qui m'a marqué.
Peut-être Enter the Void, peut-être.
C'est plus Enter the Void.
La galère dont vous parlez, hein, qui fut votre quotidien pendant des années, aujourd'hui, on va dire que c'est du passé. En tous les cas, vous ne vivez plus dans un appartement avec un trou dans le plancher, mais dans un charmant petit appartement avec un potager. Les fruits et les légumes, ce sera le thème du prochain.
Ouais, alors, il y a du boulot dans le potager. Disons que c'est plus un cagibier avec un peu de gazon. Ouais. Mais effectivement, on voit un brin d'herbe depuis notre fenêtre. Ouais. Mais en tout cas, pour le suivant, on sait pas exactement à quoi on va s'attaquer, mais en tout cas, on va s'attaquer à des problèmes qui vont concerner l'alimentaire dans tous les cas. C'est
ouais,
quelque chose qu'on aime bien tailler d'une manière générale.
Le gros squelette, Il y aura un truc rapport avec le potager, mais de loin.
Avec un pote âgé, d'accord. Il passe en me regardant. J'ai lu aussi qu'il était question que ça se passe à Bruxelles.
Voilà, normalement, on est parti pour reparler un petit peu
Bruxelles,
de la Belgique.
Potager, c'est
qu'est-ce qui se passe avec la Belgique, là? Pourquoi?
Une enquête à mener.
Nous, on a étudié en Belgique, en fait. Surtout Simon, parce que moi je suis vite partie. Ouais. Mais du coup, on a vécu 3 ans là-bas quand même.
Et c'est vrai que c'est une ville qui est assez fascinante parce que c'est à la fois un agglomérat de villages, donc avec une espèce de culture, on a l'impression, on ne sait pas trop si on est dans une capitale, on n'a jamais l'impression d'être dans une capitale. Et puis en même temps, il y a tout le quartier de la Commission européenne qui est la deuxième place de lobbying au monde, où ça trifouille dans tous les sens des choses auxquelles personne ne comprend. Et en même temps, les bars ne ferment jamais, donc on peut croiser un lobbyiste avec quelqu'un, un membre de l'aristocratie, et puis les boueurs du coin qui sont attablés au même bar pourri à 4h du matin parce que c'est le repère du quartier, que tout le monde va au même endroit. Et donc d'un point de vue narratif, c'est assez intéressant, il y a moyen d'y développer des choses assez chouettes, quoi.
Et ça s'appellera Nino à Bruxelles.
Non, on n'a dit pas les accents.
Ah, pas les accents.
Vraiment pas, jamais.
Pardon. En tous les cas, pour l'instant...
C'est pas moi qui l'ai fait.
Pour l'instant, c'est Nino dans la nuit. C'est signé Capucine et Simon Johannin et c'est édité chez Alia. Capucine, Simon, on approche de la fin de l'émission et c'est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle. Allez, j'y vais.
Oh, Slash, il a laissé sa guitare.
Bon, ok, c'est sa guitare en plastique. Dans le jeu Guitar Hero, c'est ça, mais quand même. Hein. Alors, si je mets le casque et si je suis les notes sur la télé, ben, je peux refaire un morceau. Et je vais me faire un petit riff. Vous allez m'en dire des nouvelles là-haut. Écoutez.
Antoine, vous avez laissé votre casque branché, on n'entend que les bruits des touches.
Ah, ok, d'accord. Bon, je débranche. Oh, vous êtes prêts? Allez, roule! C'est pas mal, non?
Ouais, ouais.
Hein?
Ouais.
Bon, vous savez quoi? Je vais mettre un vrai Guns N' Roses. Help the Dog, ça vous va?
C'est mieux, ouais.
Ok, pendant ce temps-là, je vais continuer mon Guitar Hero tout seul. Allez! Give me a little bit of volume on this.
True. Red hot mama, there'll be troubles in time.
Guns N' Roses dans Pop 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 sur France Inter avec le morceau Hair of the Dog. C'était en je ne sais plus quelle année sur l'album
En 1993 sur The Spaghetti Incident, point d'interrogation.
Que vous êtes là. Capucine, Simon, Johannin, je ne sais si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous y laisser tous les deux en souvenir? Capucine.
On va laisser l'intégrale d'une BD qui s'appelle Y, qui est super bien. C'est l'histoire, tous les hommes le même jour meurent tous. Enfin, tous les êtres humains qui possèdent le chromosome Y. Et du coup, c'est un truc apocalyptique, mais hyper intéressant, parce que comme il reste que des femmes, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de violence ou quoi. Mais c'est juste que ça pose plein de questions, parce qu'il y a tellement de métiers, par exemple l'aviation, la marine, des choses qui étaient, ou même la politique, où il n'y avait que des hommes. Et là, du coup, c'est la première ministre, enfin, la ministre de l'agricologie qui se retrouve présidente. Enfin, c'est tout un truc qui pose des questions super intéressantes.
Ok, l'intégrale de Y. Ben, ouais. Du coup, je ne vous pose pas la question, Simon, parce
non,
que vous êtes
plus là.
Oh, on est d'accord. Bien, merci Simon et Capucine. Johannin, je rappelle que votre livre Nino dans la nuit est édité aux éditions Alia, un livre pop pop pop. Et merci à Slash d'être venu dans Pop Pop Pop. Merci aussi à l'équipe de l'émission, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Michel Bézikian, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, une spéciale Rambo avec Patrick Rambo et la voix française de Rambo.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Alain Dorval. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un yeuve ou une yeuvesse à la pointe, suivez-nous, plutôt comme dit Rambo à la fin de ses tutos conseils de lecture sur YouTube.
Abonnez-vous à notre...
on dirait le monsieur qui faisait les épices, le père du croc, c'est ça, non? Comment il s'appelait?
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.
Pourrait refaire Rambo?
Oui, peut-être.